Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux liens entretenus par la communauté juive avec le cinéma. Nous aborderons ce sujet via un échange avec l'historien Johann Chanoir. Il est l'auteur de « La Shoah sur grand écran, entre représentation et trivialisation », une étude en deux parties, parue dans la revue Historien et Géographe dans les numéros de mai et août 2022, les numéros 458 et 459. Notre échange portera entre autres sur trois films sortis chez Blackout récemment, deux documentaires, Babillard, Contexte, un film de 2021 signé Sergueï Lonitza, Mizraïm, Les Oubliés de la Terre Promise, un film également de 2021 signé Michale Boganim, et une œuvre de fiction sortie en 2022, Évolution, de Cornel Mundruczó. Nous évoquerons à l'occasion de la sortie d'American Warrior, alias American Ninja, de Sam Firstenberg, un film de 1985, donc un film qui sort chez ESC, comment deux cousins juifs ont construit un empire cinématographique à Hollywood, la fameuse firme nommée Canon. Enfin, on essayera, vu tous les sujets que nous avons à aborder dans cette émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bélorger et Sandrine Hiver pour leur aide sur cette émission. Émission qui, nous vous le rappelons, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. Prime Cut, qui est disponible donc sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com et sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, ainsi que chez tous les bons libraires. Pour m'accompagner aujourd'hui, dans ce studio, il y a la fameuse bête noire de Compiègne. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Nous souhaitons donc, pour causer des liens entretenus par la communauté juive avec le 7e art, la bienvenue à Johann Chanoir, agrégé et docteur en histoire, chargé de conférences à Sciences Po, chercheur associé au Centre de recherche historique de l'EHESS et flamboyant contributeur à cette belle revue de cinéma qu'est Prime Cut. Bonjour Johann Chanoir.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien.
Moi je voudrais, Johann, que tu nous expliques ce qui a motivé l'écriture de ton travail, La Shoah sur grand écran, entre représentation et trivialisation, qui est donc paru dans la revue Historien et Géographe en 2022, numéro 458-459, si je ne m'abuse.
Tout à fait. Donc au départ, c'est d'abord un souci pédagogique, puisque c'est un objet d'étude qui relève des programmes de spécialité en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, qui a été une création de la réforme du lycée. Et donc parmi les nombreux objets d'étude, il y a en fait la Shoah dans la culture populaire, dans la littérature, dans le cinéma, et également un peu dans les séries télévisées. Donc moi, mon rôle en tant que rédacteur en chef, c'est de proposer à des collègues qui n'ont pas forcément les connaissances ou les compétences pour lire une image cinématographique, les connaissances sur la Shoah qui n'est pas très souvent enseignés à l'université, donc de leur apporter un ensemble de connaissances, des exemples très très pratiques de, comment dire, de mise en situation en classe avec nos élèves, afin de leur fournir un peu une base documentaire sur lesquelles, enfin, dans laquelle ils peuvent puiser.
On va commencer cette, on va dire entre guillemets, cette promenade, cette étude, cette recension à travers un premier film qui est un documentaire, un peu particulier. Il s'appelle Baby Art Context, c'est réalisé par Sergueï Lonitsa, qui est un réalisateur ukrainien, qui a eu le prix spécial du jury de l'Œil d'Or au Festival de Cannes en 2021, et qui est un documentaire qui fait un choix. Au départ, le réalisateur voulait faire une fiction, il faut le savoir, et puis le Covid est arrivé, ça l'a empêché de réaliser cette fiction, mais il est en très bon terme avec le directeur du mémorial de Baby Art, le Baby Art, c'est là où en 1941, des Juifs de Kiev ont été massacrés de manière absolument ignoble, et le réalisateur s'est dit, en fin de compte, puisque je ne peux pas faire de fiction en raison du Covid, je vais travailler à partir des images d'archives qu'il y a au mémorial, et je vais construire un film qui raconte donc la chose suivante. Hein, ça démarre le 28 septembre 1941. Quand les Juifs de l'agglomération de Kiev reçoivent l'ordre de se présenter au lieu dit Baby Art, donc avec papier d'identité, argent, objets précieux et quelques vêtements, et bien évidemment ceux qui ne se présentent pas à ce rendez-vous sont menacés d'être exécutés, pensant qu'ils allaient être déportés, envoyés en camp de travail, ils obtempèrent, mais en fait ils sont tous conduits par petits groupes au bord d'un ravin. Alors 33 771 hommes, femmes, vieillards et enfants, donc ils sont exécutés à l'arme à feu en 36 heures par des unités de la SS, de la Wehrmacht et de la police auxiliaire ukrainienne. Et à la libération, l'Ukraine retombe dans le giron de Staline, et les soviétiques vont occulter la nature spécifiquement antisémite de ce massacre qui aurait, selon eux, visé des citoyens soviétiques pacifiques. Et même en 1952, ils vont combler le ravin comme pour effacer cette verrue de l'histoire. Moi, je me pose la question. Alors, le documentaire est très fort. En plus, il fait le choix, le documentaire, de ne pas mettre de commentaires, mais on en reparlera. C'est uniquement les images qui s'enchaînent, jusqu'aux images du procès, qui sont aussi très impressionnantes. Certaines sont resonorisées. Il a refait les dialogues par-dessus. Il a post-synchronisé. Il a été obligé, parce que c'était difficilement audible. Mais il a quasiment rien retouché. Et pourquoi, c'est la question qu'on peut se poser, pourquoi toi, en tant qu'historien, tu expliques le fait que l'URSS, à l'époque c'était l'URSS, décide d'effacer cette partie de l'histoire, puisque après tout, ils n'avaient pas forcément le mauvais rôle dans cette histoire. Donc c'est assez étonnant.
Alors oui et non, en fait, oui, ça nous étonne aujourd'hui, parce que la mémoire de la Shoah, l'extermination des Juifs et les Ziganes a pris beaucoup plus d'importance et de résonance dans nos sociétés, mais en fait c'est très classique dès 1945, en fait, aussi bien à l'Est, donc en Union soviétique, qu'à l'Ouest, par exemple aux États-Unis, hein, c'est-à-dire qu'en fait on va nier un peu la spécificité de l'extermination de masse. Alors, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de films. Bon, je me souviens par exemple d'un film, je crois, tchécoslovaque, où en fait, on voit une étoile de David, donc qui représente, qui est posée sur la tombe d'un mort dans un centre d'extermination, dans un camp de concentration d'ailleurs. Et puis après, en fait, la caméra, fait un plan plus large, et en fait, l'étoile de David se transforme en croix, et on voit des centaines de croix. C'est-à-dire qu'en fait, on passe la Shoah soit sous la croix, donc, c'est-à-dire qu'on retire un peu le caractère spécifique de la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, pour en fait la lisser en quelque sorte et montrer que c'est une extermination de masse, mais qui concerne tout le monde, et qu'en fait les Juifs sont des victimes parmi tous les autres. Et en Union soviétique, c'est un peu la même chose. On insiste davantage sur, comme tu l'as dit, le massacre, parce qu'il y a eu des massacres de civils absolument incroyables, le massacre des prisonniers de guerre soviétiques en Allemagne, dans d'autres camps. Et donc, en fait, plutôt que d'insister sur, comment dire, le massacre des Juifs, on insiste sur l'extermination des citoyens soviétiques, sans oublier un antisémitisme latent, en quelque sorte, implicite en Union soviétique. On se souvient que un peu avant de mourir, Staline va lancer ce qu'on appelle le complot des blouses blanches, contre des médecins et des scientifiques juifs qui clampoteraient contre l'Union soviétique. On est en pleine guerre froide, mais heureusement, à la mort de Staline met fin à cette tentative de nouveau d'ostraciser les juifs en Union soviétique. Donc c'est un procédé très classique du point de vue cinématographique, c'est-à-dire que ça va à peu près durer, on va dire, jusqu'au choc du procès Eichmann, là, qui va réveiller un peu les mémoires juives, qui sont un peu assoupies parce que bon, il y a le traumatisme, il y a la volonté de passer à autre chose, etc. Et puis s'ils sont inaudibles, Simone Veil l'a souvent répété au départ, l'expérience de l'extermination de masse, les personnes ne comprennent pas pourquoi. On voit un peu tout dans camps de concentration, centres de mise à mort industriels. Et d'ailleurs, il y a un documentaire français très, très célèbre, Nuit brouillard, où en fait on confond camps de concentration et centres de mise à mort industriels. Donc en fait, c'est un procédé très classique qui nous choque aujourd'hui parce qu'on sait plus de choses, on sait mieux, on sait mieux sur les choses, mais en fait, c'est à l'œuvre dès 1945.
Alors, Johann Chanoir, tu évoquais à l'instant Nuit et brouillard d'Alain René, et c'est vraiment ce film-là, Babillard Contexte, donc qui a pour but de restituer le contexte dans lequel s'est déroulé ce massacre, est un film, pour moi, c'est le film qui m'a le plus impressionné, en fait, sur la Shoah, avec le film d'Alain René, qui demeure quand même un film absolument tétanisant.
Oui, alors il parle... Il parle effectivement de la Shoah, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas pour moi le film le plus émouvant. Je crois que le film le plus émouvant, il reste toujours à filmer, parce qu'on peut aller toujours plus loin dans la représentation. Et par exemple, Le Fils de Saul a été une étape formidable. Et en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de la Shoah au cinéma? Est-ce qu'on la trivialise? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des images choc de la Shoah, comme par exemple l'empilement des chaussures? On le retrouve par exemple dans Le Labyrinthe de Pan, qui ne parle pas de la Shoah, parce que ça parle de la guerre d'Espagne. À un moment donné, il y a une scène, il y a une image très 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 forte, où tout le monde comprend que ça fait référence à la Shoah. On le retrouve par exemple dans Terminator, et dans une série dérivée... en anglais, c'est les chroniques de Sarah Connor. Il y a une allusion au camp d'extermination de Skynet, etc. Donc ça, c'est la première option, c'est la trivialisation de la Shoah. La deuxième option, c'est on essaye en fait de la rendre un peu plus acceptable. Donc là, c'est par exemple la comédie, j'ai oublié le titre, italienne, qui est assez amusante d'ailleurs, mais qui a choqué beaucoup parce qu'il y en a qui disent qu'on touche à la Shoah. Et je rappelle par exemple que les gens de la Nouvelle Vague, comme François Truffaut, à qui un jour on avait commandé d'écrire et de faire un film sur le dernier train français qui transporte des déportés juifs vers les centres de mise à mort, il a refusé parce qu'il dit on ne peut pas filmer la Shoah, on ne peut pas donner à un acteur qui pèse 80 kilos, bien portant, etc., le rôle d'un déporté parce qu'il y aurait un réalisme qui serait brisé. Donc en fait, la question de la représentation de la Shoah, elle a beaucoup travaillé les réalisateurs, elle les travaille encore. Et puis il y a, comme tu disais, pour finir, l'option du documentaire, c'est-à-dire le documentaire, l'image est brute, mais c'est oublier une réalité fondamentale du cinéma, c'est que le film documentaire ou le film de fiction, en fait, n'ont aucune différence, au sens où c'est le montage qui est l'opération fondamentale de ce cinéma, comme il l'est dans le cinéma de fiction. Et donc, je trouve que c'est, c'est vraiment un cas, entre guillemets, bien sûr, un cas d'école pour le cinéma, c'est comment on représente l'indicible. Parce qu'il y a aussi autre chose qu'il faut ajouter, et c'est justement la performance de ce film Babillard Contexte, c'est qu'on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'image filmée de la Shoah. C'est-à-dire que les nazis avaient interdit de filmer, on a quelques photographies très très rares, on a une photographie de la sélection des juifs hongrois par exemple, avec le médecin SS sur la rampe, on a trois ou quatre photographies je crois d'Auschwitz pris par des résistants, mais on n'a pas d'image filmée de la Shoah. Donc il y a déjà une sorte d'apourri en quelque sorte, c'est comment filmer quelque chose dont on n'a pas de trace, comment dire, filmique. Et ça, je crois que c'est ce sur quoi butent les différents réalisateurs depuis 1945, hein, et sur quoi ils travaillent. On se souvient par exemple Hitchcock, hein, dans un film qui n'a strictement rien à voir en apparence, c'est Monsieur Landru, à un moment donné, il filme une sorte de four crématoire, et tout le monde comprend, on est après 45, hein, qu'il évoque la Shoah. Donc en fait, c'est quelque chose qui travaille le cinéma depuis 1945, et je pense qu'on n'a pas encore trouvé, tout épuisé, dans les moyens de représenter et d'être ému par un film.
Le film dont tu parlais, italien, c'est La vie est belle de Roberto,
oui,
Benigni.
Oui, tout à fait.
Es ist Ihnen noch gefolgt worden. Es wurden ungefähr 45 bis 50 Personen aufgeteilt und zum Graben geführt. Mussten sich mit dem Gesicht zu uns aufstellen und wurden so erschossen.
Wie viel haben Sie persönlich erschossen in dieser Zeit?
120 Mann.
Il y a quelque chose aussi, moi, dans ce documentaire, donc Babillard Contexte, qui est disponible chez Blackout, là, de Sergueï Ionidza, qui y a un côté fascinant, enfin, ce qui est fascinant et très triste à la fois, c'est de voir les foules, alors qui sont très très enthousiastes et qui collent des portraits d'Hitler dans les rues parce qu'ils en ont marre d'être sous le joug des Polonais, en fait, et puis. Quasi, enfin dans la foulée historique, ça va historiquement ça va très vite, hein, les événements là ça va très vite. Il colle après des portraits de Staline partout dès lors que les soviétiques débarquent pour les entre guillemets délivrer du joug nazi. Ça donne l'impression, en fait, c'est ça qui est assez effrayant, de voir un peuple qui passe d'une oppression à une autre et qui l'accueille à bras ouverts.
Alors. Tout à fait. Alors, ça, ce sont des choses tout à fait, réelles, hein, parce que bon, les premières unités allemandes, donc je parle des unités militaires de la Wehrmacht, ont été accueillies en Ukraine avec le pain et le sel, hein, et en liesse, hein, par les populations ravies de se débarrasser de la tutelle soviétique. Il faut rappeler qu'il y a une histoire, il y a un passé, voire un passif, hein, entre l'Ukraine et la Russie, sans parler des événements contemporains. Mais il y a eu la grande famine, hein, qui fait plus de morts d'ailleurs que la Shoah. Hein. On n'a pas de bilan officiel, mais c'est absolument considérable, épouvantable. Et donc, il y a voir arriver les Allemands, pour eux, c'est une phase inespérée. On se libère de la tutelle soviétique. Et malheureusement, après la Wehrmacht, même si la Wehrmacht n'est pas innocente des crimes, hein, de masse, on le sait aujourd'hui de manière très bien documentée, vont arriver les unités SS, les Einsatzgruppen, etc. Là, les Ukrainiens vont découvrir qu'ils sont passés d'une domination sanglante à une autre domination sanglante. Je ne sais pas, tu te souviens aussi peut-être du film de la liste de Schindler, hein, où on voit à un moment donné des Polonais cracher, jeter des cailloux, me semble-t-il, hein, sur un convoi de déportés juifs. Donc il existe un antisémitisme en Europe, hein, en Union soviétique, en Pologne, etc., en Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est très intéressant d'évoquer Babillard, parce que Babillard, ça fait partie en fait d'un autre contexte beaucoup plus large qu'on appelle la Shoah par balle. En fait, les Allemands à partir du moment où ils ont pris la décision de se débarrasser, d'exterminer les Juifs, ils ont tâtonné pour trouver la solution. Et la dernière étape sera bien sûr la solution finale. Mais avant la solution finale, il y a l'étape de Babillard, ce qu'on appelle la Shoah par balle. Hein. C'est 1,5 million de Juifs massacrés, etc. Et donc, Babillard, c'est 33 000, hein, mais on estime qu'à Babillard, jusqu'en 1943, il y a eu environ 100 000 victimes. Et la Shoah par balle, hein, c'est 1,5 million de personnes, hein, qui ont été fusillées, mis dans des fosses communes, etc. Et puis, un convoi arrive, des camions arrivent, on tue de nouveau, on déshabille. Alors ce que tu as dit, c'est très intéressant aussi, parce que nos auditeurs n'ont peut-être pas conscience de ceci, c'est que, oui, comme tu l'as dit, on les emmène avec des valises, des affaires, de l'argent. Alors il ne faut pas oublier que le Troisième Reich est une économie de la prédation, c'est-à-dire qu'on s'empare des valeurs précieuses que possèdent les Juifs que l'on va exterminer, les Allemands d'ailleurs ont supplié la France pendant l'occupation, mais également il n'y a pas assez de soldats pour les garder, en fait. Donc, on a toujours l'idée, la peur, la phobie d'une révolte, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les gardiens qui sont mobilisés. Et donc, il faut faire une sorte de mise en scène, hein, entre guillemets, bien évidemment, pour les dissuader de faire une révolte. Donc, on leur demande de prendre une valise, on leur demande de prendre leurs affaires, leurs papiers, etc., de l'argent, hein, dans l'espoir, comme tu l'as si bien dit, ils vont être déportés, puis après, ils vont être dans un camp de travail, donc... Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont pu connaître, c'est quelque chose de, pas de familier, mais d'imaginable. Personne ne se doute qu'ils vont être exterminés de manière systématique par des soldats armés de mitrailleuses, et puis après, plus tard, dans les centres de mise à mort industriels. Et tu vois, il y a tout ce mécanisme que permet de démonter ce documentaire, mais tout en ayant conscience que c'est une étape avant l'étape ultime qui est la solution finale.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui est bien mis en avant dans Babillard Contexte. Alors toi qui es historien, Yoann Chanoir, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus, parce qu'on parle beaucoup des mouvements nationalistes ukrainiens, de l'OUN, l'Organisation Nationaliste Ukrainienne, qui est créée en 1929 pour obtenir donc l'indépendance de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais peut-être une erreur, moi je ne suis pas historien, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces mouvements historiques, nationalistes, ne servent pas Poutine aussi pour bâtir sa rhétorique, pour justifier l'agression de l'Ukraine aujourd'hui ?
Ah, c'est tout à fait, de toute façon, c'est instrumentalisé. Alors, le fait qu'il évoque qu'il existe des néo-nazis en Ukraine, bon, il y a des néo-nazis malheureusement partout, en France, en Allemagne, on le sait, mais c'est surtout aussi, une évocation du rôle des Ukrainiens, de certains Ukrainiens, dans l'état de la Shoah par balle. Et il y a une mission qui a été, une mission vraiment d'archéologie, de recherche, qui a été menée par Patrick Desbois, qui a travaillé sur la Shoah par balle, qui a exhumé avec toute une équipe plus de 500 fosses communes. Et donc, il a écrit un livre. Il y a une grande exposition Mémorial de la Shoah à Paris, extraordinaire, avec des photographies, des témoignages absolument bouleversants. Et à un moment donné, en fait, on s'aperçoit que les Juifs qui ont été exterminés, fusillés, en fait, leurs biens ont été récupérés par les populations ukrainiennes avoisinantes. Et donc, en fait, il y a... Il y a un passif aussi entre certains Ukrainiens et les Juifs qui ont été massacrés. Et on dit, alors moi je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer, mais ça revient constamment dans les discours russes, ça revient aussi chez certaines personnes qui ne veulent pas non plus. Pour pas défendre l'agression russe, parce qu'une agression est indéfendable, quels que soient les motifs, et qui disent que certaines personnes en Ukraine qui ont participé à la Shoah par balle, on dispose de noms de rues, dispose de statuts, donc ça serait, bon c'est pas mon domaine de recherche, mais ça serait peut-être quelque chose à creuser pour justement comprendre comment la propagande de Poutine repose sur un élément réaliste en fait. Vous pensez d'ailleurs que toute propagande repose sur quelque chose de vrai pour faire accepter du faux. Et c'est ce passif avec la Shoah par balle, peut-être cette évocation de figures nationalistes, comme tu disais, et aujourd'hui qui nous semble absolument incongrue, insupportable, existe réellement. Et donc ça donne un argument à Poutine pour développer tout son discours et justifier ce qui reste injustifiable, c'est-à-dire l'agression.
Le film Babillard Contexte a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'il est composé essentiellement d'images d'archives sans voix, à part à la fin, lors du procès, on le retrouve. Et, comme tu l'as évoqué, Johan, il y a quelque chose qui joue avec la thématique finalement de présence, c'est-à-dire qu'on a quand même des images d'archives, on a des témoignages et tout, mais aussi d'absence, vu qu'on n'a pas d'images filmées. De ce qui s'est passé, la montagne de chaussures renvoie à finalement cette présence-absence, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens, ils ne sont plus. Ça me rappelle l'œuvre de Boltanski avec des vêtements qui s'appelle Personne avec une gruse qui soulève des tonnes de vêtements et qui arrache. Et finalement, je me posais la question, est-ce que finalement le travail de l'historien, c'est de combler cette absence ? Au final, doit-il ou pas la combler, cette absence d'information ?
Alors oui, tout à fait. C'est la difficulté, c'est vraiment la grande difficulté de disposer, de combler un peu ces vides narratifs en quelque sorte et ces vides iconographiques. Parce qu'il faut aussi bien prendre conscience que c'est une stratégie délibérée du nazisme d'effacer les traces. Babillard, par exemple, en 1943, l'armée rouge avance, donc le site va être repris par les soviétiques, les Allemands le savent. Et donc, il donne l'ordre d'exhumer les corps des fusillés. Donc, il y a toute une opération d'exhumation, etc. Et après, on les brûle pour ne laisser aucune trace. Ça, c'est systématique de la pensée nazie, c'est-à-dire de ne laisser aucune trace. Alors, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Hein, même s'il n'y a pas d'acte officiel, écrit, etc., on va exterminer 6 millions de juifs, on a quand même des traces, on a un protocole de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942 qui décide de l'extermination de tous les juifs d'Europe et qui évoque même, pour montrer le délire hein, à nos auditeurs, ils évoquent même l'extermination des juifs aux États-Unis parce que les Allemands à l'époque sont en guerre depuis le 1941. Avec les États-Unis. Donc, ils évoquent comme ça, en mangeant des saucisses et en buvant du cognac, l'extermination également des Juifs américains. Donc, ça, c'est quelque chose. Il faut aussi faire référence à la langue, parce que ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est un petit livre que je recommande souvent à mes étudiants. C'est LTI de Victor Kemplerer, donc qui est un Juif qui a survécu en Allemagne, qui a vécu en Allemagne pendant toute la guerre. Ça peut surprendre aussi nos auditeurs, mais il faut savoir qu'il était protégé, en quelque sorte, hein, par les lois de Nuremberg. Il était marié une arienne. Et donc on ne pouvait pas le déporter, etc., parce qu'il était protégé par la loi nazie. Alors c'est assez paradoxal. Et donc bien sûr sa vie sociale était absolument apocalyptique, parce qu'on lui interdisait d'avoir une radio, d'avoir une voiture, d'avoir un chat. Alors, si un jour vous lisez ses mémoires, c'est quand on apprend que les Juifs n'ont plus le droit d'avoir de chat, et il se passe une chose absolument qui nous fait sourire aujourd'hui, mais qui nous fait frémir en même temps. Mais il raconte, non, et donc il écrit pendant le nazisme, pendant le moment où il vit, caché, un peu caché, mais en ayant le droit d'être là, il écrit comment la langue allemande, comment les nazis, ont parasité, détourné la langue allemande. Je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est la solution finale. Solution finale, quelqu'un qui lit un document sur Die Endlösung, donc la solution finale, ne comprend pas à quoi ça fait référence. D'ailleurs, pourtant, se cache la volonté d'exterminer des dizaines de millions de personnes. L'opération T4, qui est aussi une phase préparatoire à la solution finale, c'est l'extermination des malades mentaux, des handicapés. Quelqu'un qui lit un document marqué opération T4, sinon ça va être Das Viertelunternehmen und Unternehmen Nummer 4, en allemand, ne comprend pas de quoi il s'agit. Et ça rentre dans le quotidien, parce que, par exemple, on peut pas employer le mot retraite à partir de 1943 quand ça commence à les mains sur le front soviétique, donc on emploie le terme de Verkürzung, c'est-à-dire rétrécissement du front. Et quelqu'un qui entend à la radio « tiens, le front a été rétréci », se dit finalement « c'est une bonne chose, le front est rétréci, donc ça prouve qu'il est plus... il est plus linéaire, donc ça montre qu'on gagne la guerre. » Et donc il y a cette perversité de la langue et ce souci d'effacer toute trace. Donc la trace, elle est d'abord sémantique, elle ne doit pas apparaître. Donc on utilise des métaphores, des périphrases, et puis après, on ne filme pas, on ne doit pas prendre de photographies. Alors il existe quelques photographies, mais il y a un vide, et surtout on ne filme pas. Alors peut-être qu'un jour on retrouvera un film, parce qu'ils ont... Il y a certainement eu, à un moment donné, un Allemand qui a eu la tentation de filmer. Mais ça, pour l'instant, on n'a jamais réussi à trouver un document filmé. Donc oui, c'est bien, effectivement, c'est la difficulté du travail de l'historien, de travailler sur quelque chose qui a existé, il n'y a pas aucun doute là-dessus, mais comment rendre visible quelque chose dont on n'a pas de traces imagées. Ça, c'est véritablement une énorme difficulté et les cinéastes, en ce sens, permettent d'aider et de compléter le travail de l'historien.
Mon père arrivait en Israël avec l'illusion que les Juifs formaient un peuple uni et indivisible. Il y avait deux bureaux à l'Office d'immigration, l'un pour les Juifs venus d'Europe et l'autre pour les Juifs venus de pays musulmans, du Maroc, d'Algérie, d'Irak et du Yémen. On les appelle ici les Mizrahim, les Orientaux.
Babillard Contexte est disponible chez Blackout. C'est un documentaire de Sergueï Lonitsa. Et il y a un autre documentaire qui est disponible chez Blackout. Blackout, qui a donc une ligne éditoriale assez... assez logique hein, sur le sujet et qui vient en complément, je trouve, du coup, ce documentaire avec celui dont on vient de parler, qui s'appelle Mizrahim, les oubliés de la terre promise, qui est un documentaire de Michale Bogani, mais qui est un documentaire. Cette femme, elle fait un documentaire en fait qui lui est plus personnel puisqu'elle repart en Israël pour évoquer pour évoquer le sort qui a été fait aux juifs orientaux, majoritairement aux juifs qui n'étaient pas ashkénazes, mais surtout aux juifs orientaux, qui ont été ghettoisés, qui ont été privés d'accès à l'école, à tel point d'ailleurs qu'on découvre dans le documentaire qu'ils ne construisaient pas d'école à partir de la sixième, ça n'existait pas, quoi. Les gamins ne pouvaient aller qu'en primaire. Il y a même un truc qui est évoqué dans le documentaire, mais qui n'est pas, donc du coup je reste très, très vigilant là-dessus, mais qui n'est pas étayé de preuves, mais où des femmes racontent que leurs bébés ont été volés, hein, mais qui ce sont des choses qui, malheureusement, on sait qu'ils se sont pratiquées dans d'autres régimes. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire de ceux qu'on appelle donc les Mizraïm, ces juifs orientaux, qui sont allés d'eux-mêmes, le cœur plein d'allant, vers la terre promise, et puis qui se sont retrouvés ghettoisés et qui ont vécu une vie quand même assez, assez misérable, qui ont été maltraités en fait par l'État, l'État qui, en quel ils nourrissaient beaucoup d'espoir.
Moi, je ne dirais pas qu'ils ont été ghettoisés, parce que c'est un terme un peu fort, qui a une très forte connotation, hein, lorsqu'on parle du peuple juif et puis de l'État d'Israël. Donc je pense qu'il faut plutôt se référer à une sorte de discrimination. Alors, déjà rappelé, je vais un peu te contredire, tous les juifs orientaux ne sont pas venus, de plein cœur dans l'État d'Israël. Hein. Moi je pense par exemple à tous les juifs arabes, qui vivaient dans les pays arabes, ce qu'on appelait après les juifs orientaux, ils ont parfois été contraints d'aller en Israël parce qu'ils ont été chassés des pays où ils vivaient depuis plusieurs générations. Je pense par exemple aux juifs égyptiens. En 1956, il y a 25 000 juifs égyptiens qui sont chassés d'Égypte par Nasser, et certains vont aux États-Unis, mais d'autres vont en Israël. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ce mouvement migratoire absolument colossal, parce qu'il y a des juifs orientaux. Ça renvoie également, donc bien sûr, aux juifs d'Afrique du Nord, aux juifs de pays arabes, mais également aux juifs d'Inde, aux juifs d'Asie centrale, aux juifs du Caucase, etc. Donc c'est toute une communauté très diverse, très plurielle, qui a une langue, enfin, qui a des langues, des coutumes, une manière de vivre sa foi complètement différente des séfarades, des sabras, des askénazes, etc. Donc c'est pas un mouvement migratoire toujours spontané, volontaire, dynamique. C'est un peu, bien sûr, toute proportion gardée, hein. C'est quand on raconte l'exil des pieds noirs en 62 en France, la plupart n'étaient jamais allés en France. C'est un pays qu'ils connaissaient par la géographie, il n'y avait pas de télévision, peut-être un peu la radio, par la presse, etc. Mais pour eux, leur pays, c'était pas la France, c'était les trois départements en Algérie. Donc il faut aussi faire un peu attention à ceci, hein. C'est pas une dynamique d'immigratoire spontanée, une volonté d'aller dans la terre promise, hein, comme porte d'ailleurs le titre de ce documentaire. Il y a aussi l'immigration, sont malheureusement parfois un peu forcées. Alors oui, ils ont vécu, ils ont subi des discriminations absolument effroyables. Alors comment les expliquer? Premièrement, déjà, il faut avoir en tête cette idée qui est fondamentale, c'est que la société israélienne est plurielle. C'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on appelle les sabras, des juifs qui sont nés en Palestine. On trouve ensuite les juifs qui sont arrivés après 1945 et qui, parce qu'ils ont justement, ils ne voulaient plus vivre de nouveau des pogroms, de l'antisémitisme. Et donc ils sont venus en Israël pour construire un État nouveau avec une idéologie nouvelle, très, très optimiste, hein, avec le kibbutz, par exemple, que tout le monde connaît. Et puis après, il y a toute l'histoire d'Israël est faite d'arrivées migratoires, hein, de populations d'origines diverses qui partagent bien sûr tous, en commun le judaïsme, mais qui ont des histoires, qui ont des coutumes et des langages totalement différents. Et donc, il faut se souvenir qu'Israël est un jeune État. Et un jeune État doit quand même se construire. Il doit construire une société. Et pour construire une société, face à des groupes qui sont juifs et qui ont donc le droit d'émigrer en Israël sans souci, il faut les intégrer. Et l'intégration a pris ce qu'on appelle nous en histoire. Hein, c'est de la manière dont l'autorité israélienne les la bâtisse, c'est la modernisation. Donc la modernisation, c'est un processus. Hein. C'est un processus qui doit conduire à la modernité. La modernité, c'est pour un historien le rapport au temps présent. Donc c'est quoi le rapport au temps présent? Et ça, il faut bien comprendre ça, c'est fondamental. Le rapport au temps présent, c'est l'État d'Israël. Donc en fait, ce processus de modernisation, entre guillemets, c'est un processus d'israélisation. C'est-à-dire faire de toutes ces communautés très diverses, très différentes des juifs qui sont nés en Palestine, les Askénazes, donc les Juifs qui viennent d'Europe centrale, orientale, d'Allemagne, les Séfarades qui viennent plutôt d'Afrique du Nord et d'Espagne à l'origine. Et donc il faut les passer au melting pot pour en faire de vrais citoyens israéliens. Alors ils ont été, presque parqués, sans mauvais jeu de mots, d'abord dans les camps de transit, comme l'on a dit que ce sont des étapes transitoires. Et puis après, dans les zones urbaines de développement, on les a forcés à devenir agriculteurs, alors que la plupart étaient commerçants, artisans, donc ça n'a pas fonctionné. Et puis, donc après, on a essayé vraiment de les israéliser à marche forcée. Il y a eu des révoltes, il y a eu une grande révolte à Haïfa en 1959, et puis la révolte des Panthères noirs, dans le documentaire, Révolte d'ailleurs, à partir des années 71 jusqu'en 73, mais le mouvement de protestation qui demande l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi de l'État hébreu, va durer à peu près 77-78 de mémoire. Et c'est seulement en 1997 que l'État hébreu, la voix de son dirigeant, je crois que c'est Oud Barak à l'époque, qui va demander un pardon par rapport au traitement discriminatoire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, fait aux Juifs orientaux. Alors, une note d'espoir, aujourd'hui ça va un peu mieux, il y a deux indices, si tu me permets, Jérôme, qui montrent que ça va un peu mieux, mais on part de très loin, il faut aussi en avoir conscience, c'est qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes, c'est-à-dire entre des Juifs orientaux et des Juifs qui sont soit nés en Palestine, soit qui sont arrivés après 1948. Et puis, il y a on trouve des Juifs orientaux maintenant à tous les niveaux de la société israélienne. Il y a des producteurs de cinéma, des producteurs de télévision, des stars, des hommes et des femmes politiques, des entrepreneurs. Donc, l'intégration est véritablement en train de se faire. Donc, voilà un peu le contexte. Qu'il faut redonner un peu d'épaisseur historique au phénomène d'Imizraïm.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Figyelj egy picit. Mi szerencsések vagyunk, ugye? Szerencsés.
Je voulais parler d'un troisième film qui est sorti quand je parlais d'une ligne éditoriale soutenue et très judicieuse. Un troisième film sorti chez Blackout qui s'appelle Evolution, qui est un film de Cornel Mundruszko. J'espère que je le prononce bien. Vous savez, c'était le réalisateur de White God et La Lune de Jupiter. La Lune de Jupiter, qui était un film assez métaphorique comme ça sur le destin des réfugiés, qui était un film très, très, très intéressant, qui avait une belle part de poésie, avait même un côté fantastique. Côté fantastique, on va retrouver un peu dans ce Évolution, qui est divisé en trois époques. Le côté fantastique, on l'a surtout dans la première partie, où les hommes nettoient un camp de la mort, en fait. Mais au début, on ne le sait pas, donc on a l'impression qu'ils sortent. Après, en fait, la révélation est ignoble, donc je ne vais pas le dire pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, parce que c'est 20 minutes absolument surprenantes, tourné en un seul plan séquence. Alors c'est un peu truqué numériquement, mais c'est quand même très beau, très esthétiquement, et c'est particulièrement ambitieux. Ces 20 premières minutes sont absolument passionnantes, on reste complètement scotché à son fauteuil en tant que spectateur, puisque ces hommes finissent par trouver un enfant là comme ça dans ce que malheureusement étaient des douches qui ont servi, où on a gazé des Juifs. Et cet enfant est là, toujours vivant. Et cet enfant va devenir une femme, ça c'est la deuxième partie du film. Une femme très âgée, là on la voit très âgée, qui a des relations compliquées avec sa propre fille et qui refuse d'être honorée, de recevoir une médaille parce qu'elle estime qu'à l'époque ces mêmes États les avaient abandonnés. Et la troisième partie du film, ça va être le petit-fils de cette rescapée des camps, qui est un adolescent et qui subit toujours le fait d'être juif en Allemagne aujourd'hui. Est-ce que tu penses, toi, Johann Chanoir, qui est historien, est-ce que tu penses, comme le réalisateur, comme Cornel Mundruszko, que être juif, parce que c'est vraiment ce que semble dire le film, être juif serait une malédiction.
Alors, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un trope du cinéma israélien. Alors là, le film n'est pas israélien, mais en fait, dans le cinéma israélien, depuis la création de l'État d'Israël, se pose cette question. Alors, c'est surtout par rapport à la figure du déporté, du rescapé, etc. Et donc, il y a toute une série de films, dès 1948, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on pourrait chercher, et qui évoquent le fait que être juif n'est pas forcément une malédiction, mais c'est plutôt pour moi être rescapé d'un centre de mise à mort industriel, on peut en être une. Hein, je vais prendre quelques exemples. Il y a par exemple dans un film de 1963 qui s'appelle La Cave, Emmanuel, un rescapé d'un centre de mise à mort industriel, qui n'arrive pas à sortir de l'obsession de se souvenir, de se rappeler de ce qu'il a vécu. Et donc, à un moment donné, il finit par vivre dans une cave, dont le titre du film. Et il y a une scène très très forte. À la fin du film, c'est qu'il sort de la cave, il va actionner une cloche, et à un moment donné, on voit une potence. Donc en fait, c'est le message, il est clair. Le message, bien sûr, il est rescapé de la Shoah, mais il est toujours prisonnier. Et ça, c'est un trend, une tendance majeure du cinéma israélien. On le retrouve dans différentes productions. Et ça transcende les barrières de genre, parce qu'il y a un film qui n'est pas sorti en France à ma connaissance, mais qui s'appelle The Wooded Gun, donc l'arme en bois, pourrait-on dire, en 1979. Et là, ça fait référence à un autre personnage emblématique du cinéma israélien, c'est la rescapée hystérique. Et donc c'est la femme, une femme palestina, qui est rescapée, qui vient vivre en Israël et qui subit les persécutions des enfants du quartier, qui sont tous des sabras, donc des enfants juifs nés en Palestine. Il lui lance des cailloux, donc qui a des crises de colère, etc. Et donc là, on a encore la figure de la rescapiste, de la rescapée, mais hystérique, qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société israélienne. Et là, on retrouve un peu, d'ailleurs, le message du deuxième documentaire, dont tu as parlé. Et le plus beau film, si j'ose dire, parce que c'est un film qui est très très dur, et je vais vous en donner une séquence, en 1989, un film d'Eli Cohen, un film merveilleux, mais d'une brutalité visuelle absolument incroyable, c'est L'été d'Avia. Ça raconte justement une femme, pareil, survivante des camps de la mort, avec sa fille, des gros problèmes avec sa fille. À un moment donné, sa fille revient de l'école avec des poux. Et cette rescapée a bien sûr une phobie des poux. On sait que les Allemands, les nazis avaient une phobie des poux, etc. Et donc, elle se demande, il y a un dialogue qui est très très célèbre pour les historiens, elle se demande si c'est une école ou c'est un camp de concentration. On comprend tout de suite l'analogie. Et l'analogie va être poursuivie par Eli Cohen, parce qu'à un moment donné, pour éviter la contamination par les poux, cette mère tombe sa fille. Donc on comprend tout de suite le message qui est derrière. Donc tout ça pour te dire qu'en fait, que cette image du rescapé qui n'est pas capable de s'intégrer dans la société israélienne, qui n'est pas capable d'oublier, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis 1948. Moi, je pense que c'est un vieux film. On peut le revoir aujourd'hui, mais c'est un film de 1955. La colline 24 ne répond plus, et ça fait aussi référence à un rescapé. Et en fait, il y a une sorte de parallèle entre ce que vivent les Juifs sous le mandat britannique en Palestine, donc avant la création de l'État d'Israël, et ce qu'ils ont vécu en Europe pendant le nazisme. Mais le rescapé, en fait, n'a pas d'agency, n'a pas de capacité d'agir ou de réagir. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui traverse la société israélienne et qui traverse tout le cinéma israélien qui n'est qu'un miroir de société.
Le film Évolution, j'aime beaucoup le travail du réalisateur. J'avais aimé La Lune de Jupiter, qui fait référence à l'Europe, qui est l'un des noms d'une lune de Jupiter. Ici, il reste du coup en Europe pour continuer finalement sa filmographie. Tout le film est filmé avec plein de plans-séquences que je trouve intéressants, vu que généralement on mettait en parallèle le plan-séquence avec le documentaire. Il le fait, comme Jérôme tu l'as dit, sur trois générations. On a d'abord du coup la grand-mère, qu'on ne sait pas encore vu que l'introduction est onirique et vraiment incroyable. On a ensuite la confrontation avec sa fille au cœur d'une dispute générationnelle. La grand-mère, elle, essaye de cacher qu'elle était juive, notamment par rapport à la persécution que sa famille a subie, alors que sa fille, elle, essaye de montrer qu'elle est juive, justement parce qu'elle peut trouver une communauté et au final finalement trouver de l'entraide. C'est notamment dans une des phrases que dit la fille « Nous étions juifs quand nous ne pouvions pas l'être, et maintenant que nous pouvons l'être, nous ne le sommes plus. » Et on a ensuite affaire à la troisième génération, qui est le fils Jonas, que je trouve très intéressant, parce qu'il y a une complexité dans son intégration qui est très intéressante. C'est-à-dire que pour sa mère, les agressions qu'il subit, c'est de l'antisémitisme, et pour lui, c'est juste du harcèlement normal. Et je trouve que c'est un film qui questionne énormément. On a d'abord ce statut finalement de survivant, puis de fantôme, puis une affirmation. Et aujourd'hui, Jonas finalement reflèterait quelque chose d'autre. Et on retrouve de base ce que j'avais dit pour Babillard, c'est-à-dire ce côté absence, présence finalement de ce qu'on fait de cet héritage et à quel point il nous définit. Et donc ma question, Johan, ce serait, est-ce que c'est un portrait assez juste ou pas ?
Alors je pense, Damien, effectivement, que c'est un portrait très très juste. Alors, l'antisémitisme existe toujours, même malheureusement dans notre société française, existe en Allemagne et dans d'autres espaces, aux États-Unis, il a même pignon sur rue, parce qu'on peut acheter Mein Kampf sur Internet sans aucun souci, et donc c'est un torchon antisémite d'une rare violence insoutenable. Donc l'antisémitisme existe, et alors... C'est pas forcément un antisémitisme politique, un antisémitisme racial, ça repose sur des propos qui sont incohérents, mais par exemple les juifs sont tous riches, les juifs sont tous dans les médias, etc. On se souvient que Coluche avait fait un sketch là-dessus dans les années 70, hein. Donc c'est quelque chose qui est inscrit malheureusement dans un temps plutôt intermédiaire de nos sociétés. Donc je pense que oui, effectivement, ça existe, alors même si on peut trouver un peu, on va dire, le message, comme disait Jérôme, très souligné, mais c'est quand même quelque chose qui a une résonance, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas évacuer dans la société postmoderne en disant « voilà, l'antisémitisme s'est résolu, on n'en parle plus, c'est plus que les 3-4 abrutis qui rêvent d'un 4e Reich qui le professent ». Non, il existe toujours, de manière plus épidermique, plus cachée, parce qu'il y a des lois qui l'empêchent, heureusement. Et donc, je pense que c'est un portrait assez fidèle. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je trouve que là, c'est très très intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a trois plans séquences, il y a trois générations, mais il y a aussi trois géographies. La première géographie, bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est dans un lieu qui est aujourd'hui intimement lié à la Shoah, donc je ne dirai pas lequel, mais on le découvre, comme a dit Jérôme, on le découvre après, on comprend après. Et c'est vrai que c'est un plan séquence d'une beauté absolument remarquable, même si ce qu'on y voit ne l'est absolument pas. La deuxième, c'est à Budapest, en Hongrie, donc dans l'Europe centrale, orientale, la Mittel-Europa, qui était vraiment le territoire où il y avait de très très fortes communautés juives, hein, qui ont pratiquement tous disparu à cause de la Shoah. Et le troisième, c'est en Allemagne. Et le fait que Jonas, si je me souviens bien, c'est lui, hein, trouve en fait une solution à antisémitisme, harcèlement, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ce qui est au cœur des deux phénomènes de l'antisémitisme et de l'harcèlement, c'est la différence. La différence par rapport à un groupe, par rapport à une communauté. Alors, soit une communauté qui existe, soit une communauté idéale, hein, celle du groupe classe, par exemple, celle du lycée, celle de l'établissement. Et donc, c'est toujours la différence qui est mise en accusation. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est qu'il trouve une résilience, parce que la fin est assez intéressante, avec quelqu'un qui porte aussi une autre différence, et ça se passe en Allemagne. Donc, c'est un peu aussi... alors, on pourrait lire, hein, et ça, je pense qu'on peut le faire, qu'effectivement, insister sur l'antisémitisme en Allemagne aujourd'hui, ça peut surprendre. Mais moi, je vois surtout le fait qu'on insiste sur que l'Allemagne est le lieu de la rédemption et de la résilience.
Tu m'as eu. Je suis instructeur de combat depuis 10 ans. Ça fait un bail. Tu es drôlement rapide, toi. Qui t'a appris ?
Personne. J'ai appris au hasard, tout seul. Dans la rue.
On rappelle que les trois films, donc Babillard Contexte de Sergueï Ionidza, Mizraïm, Les Oubliés de la Terre Promise de Michalet, Boganim et Évolution de Cornel Mundruxo sont disponibles chez Blackout. Alors on va terminer, on n'a plus beaucoup de temps pour terminer cette émission, on va dire, sur l'aspect un peu plus trivial. Mon cher Johan, donc je rappelle, Johan Chenoir, tu as travaillé, hein, toi, en tant qu'historien, sur la question de la trivialisation, entre représentation et trivialisation. Donc la Shoah sur grand écran, tu as fait une étude en deux parties qui est parue dans la revue Historien et Géographe, et
Il se trouve que là, il y a une sortie. Alors, ça, c'est, on change d'éditeur, c'est chez ESC. Alors, c'est peut-être pas le film le plus représentatif de ce que cette firme a produit, la Canon. Il y a une sortie d'American Warrior. Alors, je vais en dire un petit mot d'American Warrior, puis après, on va peut-être parler un peu plus de la Canon et des hommes qui sont derrière la Canon, parce que je pense que là, tu as pas mal de choses à nous dire. Alors, American Warrior, c'est un film de Sam Firstenberg, c'est un film de 85. C'est un film qui met en vedette Michael Dudikoff, qui est en fait le ninja blanc. Hein. Bon, il a perdu la mémoire. Sur une base militaire. Et puis il est confronté évidemment à des types pas très sympathiques qui attaquent un convoi militaire dont il fait partie. Et là, on découvre que c'est un combattant hors pair qui est capable donc de battre, parce qu'ils sont attaqués par des ninjas, qui est capable de battre les ninjas parce qu'il a lui aussi la science des ninjas et il réussit à sauver la fille du général. Voilà. Mais comme d'autres soldats sont tués, il est un peu tenu pour responsable, il est mis à l'écart, mais il va réussir avec Steve James, qui est un autre militaire, à nouer une certaine amitié, donc l'amitié entre le blanc et le noir, entre le guerrier blanc et le militaire noir, et ils vont affronter donc les types peu recommandables qui s'en prennent à cette base militaire où a lieu un trafic d'armes, voilà. Et ce film, alors en dehors de l'angle politique, parce que tout ça on va en parler après, mais ce film là faut savoir qu'il a une suite, American Warrior 2, qui est sorti chez The Ecstasy of Film, qui est encore plus fun et barré que le premier, mais moi, je trouve que c'est des films qui jouissent plutôt d'une mauvaise réputation. Et que, en fait, c'est pas du tout ce que la Canon a produit de pire, c'est American Ninja. Que Sam Firstenberg, à l'image d'un Joseph Zito, est plutôt un bon metteur en scène, même si, c'est pas des gens qui apportent une plus-value, d'un point de vue sur le fond du film, mais sur la forme, il y a une vraie plus-value quand on voit les films de Zito, quand on voit les films de Firstenberg. Et le film de Firstenberg, je trouve plutôt bien mis en scène. Alors, bon, il y a les limites du jeu d'acteur de Dudikoff, mais qui est pas non plus la grande catastrophe, voilà, qui est quand même un acteur plutôt sympathique, ça y passe bien à l'écran. Le look des ninjas, bon, fait qu'on a souvent classé ce film dans les nanars. Bon, j'ai vu bien pire, très sérieusement, et je trouve que le film est plutôt assez efficace et plutôt bien relevé en action. Pour moi, c'est le haut du panier de la Canon en termes de films d'action. C'est parmi ce qu'ils ont fait de mieux, avec de belles idées de mise en scène, comme des bagarres hors champ, des bagarres en ombre chinoise. Enfin, il y a une vraie volonté d'avoir une mise en scène plus travaillée pour ce film. Mais je crois que toi, tu voulais revenir plutôt, Johan, sur la firme qui est derrière en fait cette production. C'est la firme, la Canon qui est l'œuvre de deux cousins, hein, Menahem Golan et Yoran Globus, et en particulier parce qu'ils se sont fait connaître via un film qui a eu un très fort retentissement à la fin des années 70, en 77, qui était Opération Thunderbolt, et qu'ils ont aussi produit un téléfilm qui est sorti la même année, un téléfilm d'Irvine Keschner, le réalisateur d'Empire Contre-Attaque, qui s'appelle Red sur NTB. Ces deux films qui, je crois, t'intéressent au plus haut point.
Alors, tout à fait, parce que ces deux films, en fait, qui évoquent, surtout d'ailleurs Red sur MTB, qui évoque la Shoah. Alors, vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Pour nos éditeurs, ça rappelle, en fait, le détournement d'un avion d'Air France, d'Athènes, hein, et puis qui va être, l'avion va être détourné par des terroristes comme de la palestinien, et puis de la Rote Armée Fraction, de la Fraction Armée Rouge. Donc, ça se passe le 3 et 4 juillet 1976, de mémoire. Et puis, donc, ils vont atterrir en Ouganda, en TB, et l'armée israélienne va décider, après beaucoup d'hésitations, à lancer une opération de sauvetage, donc, par des troupes entraînées, on va pas les commandos, mais bon, vraiment des parachutistes, me semble-t-il. Et c'est une histoire vraie, hein, il y a eu un mort, le mort, d'ailleurs, est le fils d'un très grand politique israélien. Et donc c'est quelque chose qui a marqué les esprits en Israël, l'événement, et puis les films, parce que tout de suite, le cinéma, dès, comme tu l'as dit, dès l'année suivante, s'est emparé de ce haut fait d'armes de l'armée israélienne, C'est aussi une manière un petit peu de diplomatie publique, hein, de montrer que si quelqu'un touche à des citoyens israéliens, où qu'il soit, il sera châtié, ce que fait un peu d'ailleurs aujourd'hui le cinéma chinois avec ses films d'action. Mais pourquoi moi il m'intéresse ? Bon, moi je suis un mauvais téléspectateur, j'adore les films de la Canane, j'adore les films avec Charles Bronson, dont on a déjà parlé, je rentre, tout c'est bien, Justice dans la ville, Justice et de minuit. J'adore ces films totalement décomplexés, American Warrior, comme tu dis, même si c'est des choses qui sont, parfois un peu légères. Il y a quand même, ils ont quand même produit de très grands films. Moi, je parle du film de 85, Runaway Train, hein, qui est un film absolument superbe, hein, sur un prisonnier qui se sauve d'un pénitencier de très haute sécurité sur un train. C'est vraiment, pour moi, un des chefs-d'œuvre, un des plus grands films de cinéma. Ils ont produit également Highlander, hein, qu'on connaît bien, etc. Après, ils ont produit plein de choses. Mais alors, ce film, ces deux films, surtout l'autre, le Red Suron TV, m'intéresse parce qu'à un moment donné, et ça, c'est pareil, consubstantiel à ce que fait le cinéma israélien, c'est que de montrer en fait que l'État d'Israël, c'est vraiment le seul refuge contre la Shoah d'hier et la future Shoah de demain. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène dans l'avion qui est extraordinaire, dans Red Suron TV, donc il y a une terroriste, hein, allemande, laisse les passagers, donc les passagers israéliens ou juifs, d'aller aux toilettes. Et à un moment donné, elle crie schnell, schnell, comme si c'était une SS dans le lager, un camp de concentration, une centre de mise à mort industrielle. Et à un moment donné, il y a un homme qui veut aller aux toilettes et on découvre par un peu un plan sur son poignet qu'il a un numéro qui est tatoué, donc c'est bien sûr un rescapé. Et il est complètement saisi par les cris de ce terroriste et qui insiste en plus. Et à un moment donné, cette terroriste voit le tatouage, comprend qu'il a survécu au camp nazi, et donc on pourrait s'attendre en fait qu'une terroriste d'extrême gauche qui a horreur du nazisme manifeste un peu d'empathie, mais non, pas du tout, elle continue de crier, etc. Et le message politique, il est très clair, c'est qu'en fait, ce que font vivre les Palestiniens et terroristes allemands de la fraction armée rouge, c'est la même chose qu'ont fait vivre les nazis aux juifs entre 1939 et 1945. Donc en fait, ce sont des films qu'on peut trouver légers. Moi, je trouve que Red Suron TV, c'est un bon film d'action. Il y a un casting extraordinaire. Mais c'est aussi un film politique. Et on est vraiment là dans la trivialisation de la Shoah. Et il y a des tas de films, hein, même qui n'ont rien à voir en apparence, mais qui insistent sur le tatouage. Hein. Le tatouage, hein, c'est véritablement un des signes de la Shoah qui rentrait dans la culture populaire. Ce qu'on appelle, nous, en tant qu'historien, c'est la trivialisation. Et ce film, il participe avec un message politique, un message d'ailleurs qui est porté, hein, par l'État d'Israël. Et Opération Thunderbolt, c'est pareil, hein, c'est un très bon film d'action aussi, c'est bien filmé, c'est bien cadré, il y a un message politique derrière, mais il m'intéresse aussi en ce sens, c'est parce que le cinéma n'est pas qu'une œuvre de divertissement pour nous faire plaisir, c'est aussi une œuvre qui nous invite à réfléchir.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.